Quand êtes-vous arrivé au CESR et dans quelles circonstances ?
Les circonstances sont les suivantes. Le directeur du CESR était André Stegman. André Stegman m'interpelle là vers 11h, c'était de la semaine, mais je me souviens bien. À Quillon, vous vous occupez du XVIe siècle ? Je dis oui, et puis vous voyez, c'est... j'aimerais bien vous accueillir là. Je veux votre réponse à 2h. Voilà l'entrée au CESR.
Mais vous y enseignez déjà ?
Non, j'enseignais à l'université. J'étais maître assistant, comme on disait, ou assistant même peut-être. Je ne sais plus. C'était, il y avait peut-être...
Assistant au tanneur.
Là, il n'y avait pas encore de tanneur. C'était encore Grandmont.
Grandmont.
Je suis entré, parce que j'ai fait quelques années d'enseignement secondaire, d'abord à Vendôme, et puis ensuite le lycée de jeunes filles, où il y a la... Ça y est, j'ai mangé. Ça va plus. Une année là, et puis comme c'était un poste qui devait être pourvu, mais qui ne l'avait pas été, donc on m'avait nommé là en attente, le lycée de jeunes filles, c'était... Mais il y avait, à l'époque, il y avait des garçons et des filles. Ce poste-là était finalement... devait être reconverti en autre chose, je suis passé à Grandmont. Et à Grandmont, il est arrivé deux choses, que j'ai eu les oreillons, donc ça a amputé une partie de mon enseignement, et après j'ai eu mai 68, ce qui fait que cette année, ma dernière année dans l'enseignement secondaire a été un peu raccourcie, si vous voulez. Mais c'était bien intéressant. Et alors c'est là que les universités étant créées, dont l'université Orléans-Tours, qui était en binôme à l'époque, complètement... fusionnel. À Orléans, il y avait le recteur Antoine, donc qui était un artisan de la loi Faure sur la création précisément des universités. On recrutait facilement. Et votre serviteur a bien bénéficié de cette grande fournée d'enseignants. Et j'ai été coaché, comme on pourrait dire, par Michel Arrivé, qui lui était déjà bien connu dans le monde de la linguistique, pour avoir été l'auteur d'une grammaire nouvelle tout à fait intéressante, et qui était à l'époque professeur à Tours. Donc là, comme c'était aussi mon domaine, mes bibles, c'était du point de vue linguistique, vocabulaire, modification des structures syntaxiques, etc. Donc ce que, et aujourd'hui, quand je vois ce que, pour être maître de conf, il faut présenter comme diplôme, comme thèse et travaux, articles, voire livres. Je dis, mon pauvre, tu serais bien loin de pouvoir... j'avais pas grand-chose, mais mes pauvres petits catalogues, j'avais peut-être complété ce catalogue des incunables Lochois par un catalogue qui embrassait quelques autres bibliothèques. Je l'avais peut-être étendu au livre du début du XVIe siècle, mon catalogue. Et il avait été publié d'une manière plus officielle que ma Ronéo, par Henri-Jean Martin dans une publication qui n'a connu que 3 fascicules. Enfin, c'était là aussi une composition un petit peu, je dirais pas bricolée, mais un peu rudimentaire du point de vue du livre. Mais enfin, c'était sous l'égide de Maître Martin et de l'Institut du Livre qu'il avait créé aussi à cette époque-là. Donc, il y a dans ces années 80, avec au ministère de la Culture, Jean Gattegno, qui a vraiment beaucoup aidé à ce développement de la connaissance des fonds patrimoniaux. Donc, je reviens sur mon entrée à l'université. Donc, à 2 heures, j'ai déclaré que j'étais partant pour enseigner. Alors, je continuais quand même à avoir mes cours à l'université. J'avais un cours c'était le 2 déjà, ça s'appelait comme ça, peut-être même pas. Et puis, le cours d'agrég, j'assurais l'aspect philologique des auteurs de moyen français. Dans la préparation à l'agrég. Et puis, j'avais mon petit cours d'histoire du livre, que j'avais commencé clandestinement, quasiment, à la même époque qu'un autre, où j'avais obtenu une salle dans l'université, la base administrative de l'université, c'était l'Institut de Touraine. J'avais des cours... d'après le dîner, après le souper. Je me propulsais avec mes ouvrages, et c'était lacunable, avec ce que j'avais à ma disposition, pour quelques étudiantes et étudiants, il n'y avait pas des foules, mais il y avait quelques-uns, auxquels j'avais proposé ça d'une manière générale, mais ceux-là s'étaient déclarés intéressés, et on a eu comme ça des soirées je ne sais pas si c'est des vocations, mais entre autres Bruno Carbone, vous avez connu Bruno. Oui. Bruno était cet auditeur semi-nocturne de mon enseignement. Alors, le maniement des catalogues, parce que les Anglais avaient déjà des catalogues extrêmement bien faits, et puis qui sont encore parfaitement en usage aujourd'hui, qui remontaient au début du siècle. Ce que je vous disais tout à l'heure, le Paulin, le Pelchet, évidemment, on ne pouvait pas travailler sur les originaux, mais je dois dire que l'exemple de Bruno a été... il y a eu quand même une oreille... Ça marche. J'avais toujours mon petit enseignement au centre, mais c'était encore regardé comme une chose un peu latérale, si vous voulez. Et parallèlement à cet enseignement, j'en ai eu un autre, Jean-Guillaume, qui enseignait l'histoire de l'art à l'université, et au centre plus particulièrement, m'avait dit, oh, toi, tu te livres tu pratiques le livre, les mentions manuscrites, on m'a dit que la paléographie des écritures cursives du 15 au 17e siècle, t'étais pas tout à fait étrangère, tu devrais... Et j'ai eu un cours institutionnel, qui a marché et qui marche encore. Aujourd'hui, c'est Rémi Jiménez qui... Il y a un cours de paléographie et d'écriture médiévale, mais là, c'était plutôt les cursives, vous savez, les minutes des notaires, entre autres, qui sont vraiment parfois très, très, très difficiles à lire et dont les historiens d'art ont besoin pour... c'est pour ça que Jean-Guillaume m'avait sollicité. D'études, on devrait... Et alors, j'aurais eu dans plusieurs années, enfin jusqu'à la retraite, j'ai eu ce cours de paléographie qui marchait bien, il y avait 2 niveaux même. Et il y a eu des gens qui n'entraient pas du tout, et qui étaient d'excellents étudiants, et d'autres qui avaient l'œil. Je dois dire que apprivoiser ces textes pour des yeux qui, évidemment, n'avaient que l'imprimé comme source. Ça a vraiment bien marché. Des effectifs nombreux de 2 fois 30, hein, c'était quand même pas mal pour ce genre de jouet, et je pense que ça a servi. Même si, il faut un long entraînement, hein, pour la paléographie. au moins, il déchiffrait déjà un certain nombre de choses. Et puis après, bon, fallait pratiquer la main de ce notaire. Mais ça a été vraiment très agréable pour moi. Parfois, je butais hein, dans les lectures. J'arrivais, j'avais pas. Et puis j'avais. Mais là, ça serait pas la salle. C'était pas toujours, hein, mais et parfois des lectures que mes auditrices-setteurs étaient à mesure de me révéler. Non, c'était vraiment très. Et j'avais toujours pour souci de prendre des textes qui n'avaient jamais été lus depuis 1547 ou 1572. Les archives départementales ont des minutiers peut-être on en viendra à bout d'analyser leur contenu, mais enfin, c'était quand même très très long. Donc, c'était. Nous découvrons. Alors, ça motive, donc, et ça excuse un peu aussi les embûches qu'on peut trouver dans la lecture. Donc vraiment, ça a été. Et là, il est toujours, je vous dis, ce cours a toujours lieu, a toujours un public. Ah oui, parce qu'on est. Alors, je ne sais pas si la reconnaissance des artifices.
Des caractères.
Des caractères en matière.
Ça ne marche pas encore.
Ça ne marche pas encore. Je pense que sur certains textes. Je ne vois pas comment ça peut. Ah oui, on en parle. J'ai vu un article tout récent dans le bulletin de la BNF ou quelque chose comme ça où on parle de ce genre de choses. Je ne sais plus où c'était.
Manuscrite, ça fonctionne. Après, je suppose qu'avec l'intelligence artificielle, si on l'entraîne un type d'écriture, peut-être que...
C'est ce qu'il faut faire. J'ai lu que les lettres de rémission, notamment, avaient été l'objet de ce traitement. D'accord. Et étaient... Bien sûr, il faut relire après, parce qu'il y a quand même certainement des choses que l'historien doit mettre au net, qui sont des erreurs. Mais ça, les lettres de rémission, ce sont des copies, c'est des belles choses qui sont transcrites donc d'une manière homogène, même s'il y a plusieurs copistes, ils écrivent bien. Les notaires, il y a rayé, biffé, la marge, entre... donc c'est ça qui est intéressant, c'est la découverte. Mais ça c'était, c'est parallèle, voilà pourquoi je m'étais mis à cette affaire-là, parce que toujours dans la bibliothèque de Loches, il y avait les archives municipales, je me dis, je vais regarder s'il y a des choses. Alors là, je m'aperçois que je ne comprends rien, je ne sais pas, je ne sais pas déchiffrer la première ligne qui me semble... Oh, je dis, mon petit bonhomme, là, ça n'est pas possible. Il faut absolument te former à la lecture des écritures manuscrites. Tu vas avoir dans les livres des marques de provenance qui sont plus ou moins bien écrites, plus ou moins explicites, des notes marginales, sans les déchiffrer toutes, voir au moins à quoi ça correspond, si c'est l'idée que elles indiquent que le cours du professeur a été commencé tel jour de telle année, et qu'on a suivi l'explication des météorologica d'Aristote, que ça c'est... Ça se trouve, c'est rarissime, mais ça se trouve, plutôt que simplement des notes manuscrites qui disent le contenu de ce paragraphe, c'est ça. Hein, vous voyez donc, il fallait absolument que je me forme à ça. Et c'est ça. Alors là, j'ai appris ça avec. Là aussi, j'avais aucune formation dans la paléographie. Hein, je ne savais rien lire. Donc je m'y suis mis en auto-formation avec le manuel d'Emmanuel Poul, vous connaissez. Manuel. Combien il y en a 100, une centaine de, je ne sais plus. Qui vont de 1450 à 1650 ou quelque chose comme ça. Très bien choisi, très judicieux, qui montre. Et puis il y a une introduction qui indique l'ordre, l'ordre est chronologique dans le manuel, mais l'ordre difficultueux est autre. Donc c'est là-dedans que j'ai appris. les choses. Maintenant, il y a des manuels. Il y en avait déjà d'autres, mais c'était plutôt médiéval. Et maintenant, il y a des manuels de paléographie moderne, c'est-à-dire les mains du 15e. En gros, hein, c'est à cette époque-là qu'on commence à avoir une documentation en France, pour nos régions, pour les régions méridionales, c'est beaucoup plus tôt, mais pour nos régions, la documentation en langue française, hein, c'est ça, oui, c'était la paléographie française, avec les notaires, pour Tours, c'est quelques, ah oui, si, quand même, un nombre important de minutiers qui commence vers 1460. Puis alors après, c'est une croissance exponentielle de cette... voilà. Alors, mais tout ça lié quand même au livre, hein, puisque je dois savoir ce qui est écrit, et puis les mentions d'achat. J'ai acheté ce livre à Paris tel jour pour le prix de... pour la somme de 2 livres, etc. Vous voyez, tout ça, ça doit être un faire partie des notices des descriptions, ce qui nous changeait des catalogues de Paulin ou de Marie Pelchet, qui ne s'occupait absolument pas d'où venait
ces mentions d'appartenance.
Voilà.
Donc vous vous lancez dans tous ces catalogues régionaux des
incunables. Alors c'est beaucoup plus tard, parce que
c'est beaucoup plus tard.
Enfin beaucoup plus. Quand je vois apparaître les catalogues, alors donc de Jean-Marie Arnoux, 1980, et puis...
C'est après 80.
Moi, c'est après 80, et j'avais commencé déjà les choses, et avec Loche, bien sûr, et puis quelques autres. J'avais fait, je crois, ah oui, ça m'avait donné l'occasion
d'aller... Parce que vous avez publié dans les années 70 le répertoire bibliographique des livres du XVIe siècle pour la Normandie.
Ah oui, ça c'est autre chose, c'est tout autre. Ça c'est un autre, c'est un autre domaine. C'est toujours l'histoire du livre. Hein. Alors je m'étais rendu compte qu'on avait très peu d'accès. Alors autant pour le livre parisien, on n'avait pas de catalogue identique à celui qui est né dans les mêmes années, qui était le catalogue de Brigitte Moreau. Brigitte Moreau était bibliothécaire à la réserve de la BNF, et elle avait entrepris d'utiliser les fiches de Renoir. Philippe Renoir, qui était pas du tout bibliothécaire, il était lié au monde du livre quand même, je ne sais plus par quel biais, qui avait commencé à cataloguer les livres parisiens du XVIe siècle. Il en a publié deux, qui étaient l'un de la bibliographie de Josbad, en 3 gros volumes qui font toujours autorité, hein. Et puis un autre, je crois qu'il y a le Simon de Colline. Puis en plus, il avait publié des répertoires de libraires et imprimeurs parisiens du XVIe siècle. Donc c'était un homme, mais malheureusement, sauf ces 2 volumes, les autres, et la production parisienne, quand on voit ce qu'il en est aujourd'hui dans les bases de la BNF, donc dans BP16, ça s'appelle, où le travail qui était consigné jusqu'alors dans des livres imprimés était reporté en numérique, donc le BP16. Alors pourquoi je vous disais cela, parce que quoi donc,
C'était sur la bibliographie des...
Voilà, il y avait la bibliographie lyonnaise de Baudrier, donc pour Lyon, les deux capitales, hein, du livre au XVIe siècle. Il n'y avait rien pour la Normandie, et je m'étais aperçu que, alors là aussi, par le truchement des bibles abrégées, je me dis, mais on peut pas, il y a des bibliographies normandes partielles, les livres imprimés à Caen, mais par Léopold de Lille, une autorité évidemment immense, mais c'était Caen, et Rouen, rien. Et or, en dépouillant des catalogues, j'en ai dépouillé aujourd'hui, je cliquerai quand Bibliothèque de Lyon, date 1501-1600, j'avais là. Il fallait lire des colonnes de dates, de chiffres, enfin bon. Et j'ai commencé comme ça à m'intéresser à la... Malheureusement, la bibliographie, elle est toujours... J'ai les notes, j'ai mes fiches, là aussi, mais je n'ai publié qu'un certain nombre de fascicules, essentiellement pour le premier tiers du 16e, et puis aussi le catalogue des livres de Raphaël du Petit Val, qui lui officiait dans toute la fin du 16e, mais pour lequel il y avait déjà des travaux préparatoires, mais que j'ai quand même pu compléter et préciser surtout. Donc le gros c'était des libraires, des grands libraires, hein, qui pouvaient passer pour concurrencer les Parisiens à l'époque, hein, Pierre-Olivier, Martin Morin, c'était des gens qui avaient une expertise dans la condition typographique, des missels tout à fait remarquables et qui étaient tout à fait absolument comparables à ceux des meilleurs experts parisiens en la matière. La preuve, c'est que quand même, Martin Morin primait pour l'église d'York, qui n'est pas tout à fait s'adresser à lui, sachant la Normandie ayant toujours des relations privilégiées avec la Grande-Bretagne, et plusieurs imprimeurs normands étant des fondateurs au-delà du Channel, des fondateurs d'ateliers anglais. Mais voyez, donc c'est ça qui m'avait intéressé. Donc là, il y a des fascicules. Il faudrait que je continue, mais bon, les incunables ont pris le pas sur tout le reste aujourd'hui. Et puis bon. La bibliographie normande. Donc là, elle sert encore. Je vois des fois des références dans d'autres ouvrages où on a la gentillesse de renvoyer à ma notice.